La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Les récits de fin du monde sont aussi vieux, si ce n'est que l'origine du monde, au moins que celle des récits. Pourtant, ces histoires d'apocalypse ont évolué au fil du temps et depuis le début du 19e siècle, elles se nourrissent notamment de la science et de ses avancées, au point même que depuis bien moins longtemps encore, ces fictions tentent parfois de se faire passer pour de la science. Ainsi, de la vogue actuelle qu'on appelle collapsologie, raison de plus pour prendre ces histoires au sérieux, mais pour ce qu'elles sont, des fictions. C'est précisément ce que fait Jean-Paul Angélibert dans « Fabuler la fin du monde ». Il est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Et de fin du monde, il sera toujours question dans la seconde partie de cette émission avec Alban Lefranc qui fait paraître aux éditions Rivage cet automne « L'homme qui brûle », un roman dans lequel il est aussi question d'apocalypse et de fin du monde. Bonjour Jean-Paul Angélibert.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature comparée à l'université Bordeaux-Montaigne et vous faites paraître dans la collection « L'horizon des possibles à la découverte » Fabuler la fin du monde, la puissance critique des fictions d'apocalypse. Alors je le disais, il y a une vague contemporaine qu'on appelle collapsologie, ou
tout à fait,
que l'on voit se traduire par la publication d'un certain nombre d'essais, dont certains sont même des best-sellers, qui envisagent la fin du monde et nous disent même que cette fin du monde est pour demain, ou en tous les cas pour oui. Dans les 15 ans qui viennent, 10 ans qui viennent, enfin là-dessus il y a des désaccords sans doute. Ce sont des livres qui se présentent souvent comme des livres, si ce n'est scientifique, du moins appuyé sur la science, qui ne se présente pas comme des fictions. C'est pas vraiment ces livres-là qui vous intéressent, alors il faudrait les regarder comme des fictions qui ont votre préférence.
En tout cas, ce n'est pas mon objet. C'est vrai que ce sont des livres, si on pense à l'essai d'Yves Cochet qui vient de sortir, ou au livre de Pablo Servigne, Ravel Stevens, Gauthier Chapelle qui sont sortis depuis 2015. Sont des livres qui ont un côté un petit peu scientiste, s'appuient sur ce qu'ils appellent les sciences dures et essayent de constituer en vérité une prophétie d'effondrement.
Sous couvert de vulgarisation approximative.
Sous couvert de vulgarisation scientifique aussi, oui, c'est vrai. Et c'est pas mon objet. Moi, j'ai pas du tout travaillé là-dessus. Moi, je suis un littéraire. Mon objet, c'est la fiction. Et j'ai travaillé sur des fictions qui racontent la fin du monde, mais qui ne se présentent pas du tout comme des prophéties. Au contraire, moi, ce qui m'intéresse, ce sont des romans, des pièces de théâtre, des films, des séries. Bref, des fictions qui s'avouent comme fiction et qui ne cherchent pas du tout à prétendre prophétiser l'avenir.
Alors néanmoins, on est dans ce contexte, dans ce moment où ces fictions acquièrent, même quand elles sont anciennes, une résonance particulière, parce que finalement les fictions de fin du monde, elles sont très très anciennes. Vous insistez néanmoins sur un tournant, un moment, je le disais dans l'introduction de l'émission, le 19e siècle, il y a un roman qui vous intéresse en particulier, qui date du tout début du 19e, et qui est pour vous un moment clé au fond.
Oui, là je me cale sur une conception de l'Anthropocène qui est celle de Bonneuil et Fressot, les historiens qui ont beaucoup travaillé sur cette question-là et qui ont établi une histoire de l'Anthropocène qui est tout à fait intéressante. Et je vois en littérature émerger une nouvelle forme de fiction de la fin du monde au tout début du 19e siècle, précisément avec un livre de Jean-Baptiste Cousin de Grinville.
1805, hein, c'est ça.
Paru en 1805, tout début 1805, il l'a écrit en 1804. C'est un auteur qui est complètement tombé dans l'oubli. Il est mort en 1805 avant la publication de son livre. On dit qu'il s'est suicidé de désespoir, parce que ça, il avait connu beaucoup d'échecs. Et notamment, c'est quelqu'un qui a traversé la Révolution française, traversé l'échec de la Révolution, traverser les années napoléoniennes. Et son livre est intéressant parce qu'il est, d'une certaine manière, la première fiction laïque de la fin du monde. C'est-à-dire qu'il ne réinvestit pas l'ancien récit de l'Apocalypse, il ne réécrit pas une Apocalypse de Saint Jean, mais il fait quelque chose de tout à fait différent.
Et de ce point de vue, il inaugure une tradition littéraire.
Et il inaugure une tradition. Alors, ce livre s'appelle « Le dernier homme ». il s'est très très peu diffusé de son temps. Je crois que la première édition s'est vendue à 40 exemplaires. Et pourtant, il a été redécouvert plusieurs fois au XIXe siècle. Nodier l'a réédité en 1811. Il a été lu et traduit en Angleterre tout de suite, dès les années 1805 ou 1806, il y a une édition anglaise, ce qui fait que les romantiques anglais le lisent, et Byron le lit et le cite, Mary Shelley le lit et s'en sert, parce que le roman de Mary Shelley qui paraît dans les années 20, qui s'intitule The Last Man, qui est traduit aussi sous le titre Le Dernier Homme en français, s'en inspire assez ouvertement. Et donc c'est un livre qui a une postérité. Il lance en effet une tradition de fin du monde qui ne doivent plus grand-chose dans leur forme au récit canonique de l'Apocalypse, mais qui en fait critique le présent et critique le siècle des Lumières et le siècle du progrès, pour montrer que les soi-disant progrès aboutissent à la fin de l'humanité.
C'est un livre, et ce sont des livres par la suite contemporains de la révolution industrielle.
Alors, effectivement, c'est la révolution industrielle qui est critiquée là. Dans Le Dernier Homme, les Lumières sont présentes d'une manière tout à fait significative. Il n'y a pas de grand nom, il n'y a pas de jalon historique précis qui soit mentionné. Par contre, ce que Grinville retient des Lumières, c'est globalement l'aspiration à la maîtrise de la nature. C'est l'idée d'un Éden descendu, d'un paradis descendu sur la Terre, grâce à la puissance de la technique, par des humains qui ne misent que sur la technique et sur leur propre puissance machinique et ou chimique. Bon, il mentionne plusieurs sciences. Et ça, pour lui, c'est condamné à l'échec. Cette volonté de maîtrise de la nature n'aboutira qu'à des catastrophes cosmiques qui vont anéantir l'humanité.
Alors, votre réflexion part de ce livre qui a un jalon historique, mais votre essai n'est en aucun cas une histoire littéraire de ce genre. Les textes ou les films ou les séries sur lesquelles vous vous appuyez sont de différents moments et d'auteurs extraordinairement différents, certains très célèbres et reconnus comme des chefs-d'œuvre et d'autres peut-être moins considérés dans la hiérarchie de la légitimité culturelle. Mais c'est pas votre souci au fond.
Non.
Ce qui vous intéresse, c'est de les prendre pour ce qu'ils sont, ce qui nous fait croiser dans votre essai Jean-Paul Angélibert des auteurs aussi différents que Antoine Volodine ou Cormac McCarthy, ou des réalisateurs comme Lars von Trier, par exemple, et puis Margaret Atwood, dont on parle beaucoup depuis l'adaptation de ses romans en série, La Servante Écarlate.
Oui, je n'ai pas voulu obéir à une distinction de valeur littéraire. J'ai voulu remettre en cause toutes les hiérarchies de valeurs. Donc je parle aussi bien d'auteurs oubliés comme Cousin de Grinville ou comme le Didier Chouzy, fin 19e siècle, ou d'auteurs dont je suis pas sûr, d'auteurs plus récents, mais dont je suis pas sûr qu'ils restent tout à fait dans les mémoires, et d'auteurs très reconnus ou consacrés. Il n'y a pas de hiérarchie qui vaille dans un objet comme celui-là. J'ai voulu constituer un objet. Alors, sans en faire l'histoire, parce que ce serait beaucoup trop long, il y a des centaines, peut-être des milliers d'œuvres, mais essayer de dessiner un parcours des fictions que j'appelle les fictions de l'Anthropocène. Ce parcours, je le fais commencer il y a à peu près 200 ans, et évidemment, plus les dégâts environnementaux se multiplient, plus leur réalité devient évidente, plus aussi à l'époque présente les réponses politiques semblent faibles devant notre situation écologique, plus ces fictions prolifèrent. Et y a un parcours très net, je pense, qui se dessine dans le livre, c'est que les fictions du 19e siècle existent, elles sont assez nombreuses, mais au XXe siècle, surtout dans la deuxième moitié, et encore plus dans le dernier quart, et puis surtout au XXIe siècle, ça se multiplie, ça prolifère. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne parle plus que de ça.
Mais alors, au-delà des différences qui sont considérables entre toutes ces œuvres, quels sont leurs points communs? Quelles sont les caractéristiques de ces fictions de l'Apocalypse qui vous intéressent, Jean-Paul Angélibert?
Je ne sais pas si je pourrais répondre en moins de 2 heures, mais je vais essayer. Je crois que la première caractéristique qui m'intéresse, c'est une réflexion sur le présent. Je disais tout à l'heure que ce ne sont pas des prophéties, il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais il s'agit de penser le présent. Et ce que les fictions d'Apocalypse présentent d'intéressant, c'est de constituer le présent en feuilletage temporel. On sait que le contemporain n'est jamais entièrement présent à lui-même. Il incorpore le passé sous la forme de la mémoire, sous la forme de l'archive, sous la forme de ce qui reste, hein, sous la forme des fantômes aussi. Et puis il incorpore le futur sous la forme des attentes et des craintes, des prophéties, des prévisions, etc. Donc le présent n'est jamais tout à fait concordant avec lui-même, mais ça, c'est tout un art de la fiction de le montrer, c'est tout un art de la fiction de l'exprimer.
Et c'est d'autant plus utile à un moment où, parce que là vous reprenez les travaux de François Hartog, on est dans une époque présentiste, comme dit cet historien François Hartog.
Oui.
On est dans un moment où le présent s'impose comme le temps de référence. Et ce que nous proposent ces fictions, c'est d'élargir, au fond, de passer, dites-vous, d'une conception du temps comme un chronos à une conception du temps qui est différent, ce qui est celle du kairos.
Tout à fait. Aujourd'hui, le passé sans ombre, un peu dans l'oubli. En tout cas, l'histoire ne sert plus de leçon ni de guide pour guider l'action. Le futur sombre dans l'imprévisible ou dans le néant à la suite de la perte des espérances révolutionnaires. C'est clair. Et il reste un présent sans horizon et sans mémoire. Ce qui fait qu'on est un peu déboussolé, et je pense que les fictions d'effondrement et tous les discours sociaux sur l'effondrement viennent de là, c'est-à-dire qu'on n'a plus tellement d'espérance et il ne reste plus que l'idée que ça va s'effondrer. Et ces fictions, elles ont l'intérêt de ne pas miser sur un effondrement qui viendrait comme ça, tombant du ciel, nous délivrer de ce présent insupportable, mais de problématiser le présent en faisant ce que j'appelle un kairos et non plus un chronos, c'est-à-dire qu'elle nous sorte de l'histoire chronologique qui est la simple succession des événements, pour nous faire entrer dans ce qu'on appelle un kairos en grec, c'est-à-dire le temps de l'opportunité, le temps de l'action. Le kairos est à la fois le temps qui nous requiert et qui est proposé à nous. C'est le temps où agir, c'est le temps comme événementialité et pas comme succession.
C'est-à-dire qu'au fond, ces fictions, c'est là qu'elles deviennent utiles, en quelque sorte.
Si une fiction peut être utile, ou doit être utile.
Elles peuvent être mobilisatrices. En tout cas, elles sont utiles à la connaissance. Ça, vous le défendez fortement. Les fictions sont des modes de connaissance pour vous.
Je pense que la fiction est un mode de connaissance, et pas seulement, mais si on peut le traduire en termes d'utilité, oui. Ça, je le soutiendrai. La fiction nous permet de comprendre le présent.
De comprendre le présent, éventuellement de se projeter dans l'avenir.
Et aussi de se projeter.
Et de faire quelque chose avec le passé. C'est-à-dire que c'est ce feuilletage dont vous parliez tout à l'heure.
Elle met en relief ce feuilletage, et elle permet de faire quelque chose du présent, parce qu'il cesse de coïncider avec lui-même, et il prend de l'épaisseur. Et notamment, il prend l'épaisseur d'un avenir dans lequel la possibilité de l'action est restaurée. Alors, si on peut donner quelques exemples, dans le roman de Margaret Atwood, dans la trilogie de Margaret Atwood, qui s'appelle Mad Adam, on voit très bien ça. Dans le premier volume, on découvre une situation apocalyptique au sens le plus banal. Un savant fou a répandu un virus dans le monde entier qui a détruit la quasi-totalité de l'humanité. Toutes les institutions sont par terre, il ne reste plus rien. Et ce premier roman se termine sur la survie de très très peu d'êtres humains et on pense que le monde finit. Suivent 2 autres romans que je ne vais pas raconter en détail, mais le troisième, lui, présente d'autres survivants qui vont se regrouper pour mettre en place une espèce de petite utopie, une petite utopie écologiste, et faire renaître la civilisation sur des bases entièrement différentes de ce qui était auparavant. Dans la trilogie, donc, on a un mouvement qui va de l'apocalypse au sens le plus banal à l'utopie. Bref, le kairos du temps de la fin, les survivants s'en sont saisis pour reconstruire un monde humain.
Alors voilà, là on touche des caractéristiques dont je vous parlais tout à l'heure de ces fictions de la fin du monde. C'est-à-dire d'abord peut-être cette idée de table rase pour commencer.
Ouais. Au début, il y a une table rase que narrativement, ce que ces fictions partagent, c'est la table rase au début, le monde est détruit et c'est sur ces ruines que quelque chose éventuellement pourra recommencer. Éventuellement,
et quand ça a lieu, c'est ce qui prend la forme d'utopie, parce qu'au fond, ça c'est...
Et c'est là que le désir utopique peut se placer. C'est à partir du rien que le désir utopique peut trouver une forme dans laquelle se réaliser. Et ça, c'est ce qui distingue ces utopies-là, parce que finalement, on peut les appeler comme ça. C'est ce qui les distingue des utopies du passé, où c'était tout à fait autrement que l'utopie venait à se réaliser. Ici, on a l'impression, enfin, maintenant, on a l'impression qu'il faut la table rase et la destruction du monde ancien pour que l'utopie puisse trouver un lieu. Bon, il y a quelques auteurs, dont Pierre-Henri Castel, qui disent que c'est fiction, et je suis tout à fait d'accord avec ça, même si je le dis pas exactement de la même façon, dans ce livre en tout cas. Ces fictions jouent le rôle pour nous que les utopies jouaient au XVIIIe siècle. C'est parfaitement vrai, à la différence près que dans notre situation politique et écologique inédite, il faut détruire le monde ancien pour que le désir utopique retrouve lieu.
Vous citez Pierre-Henri Castel, qui était venu parler de cet essai, Le mal qui vient ici, l'année dernière, il y a un an. Au fond, pour lui, ce qui est important, et comme pour Bruno Latour ou pour Giorgio Agamben, que vous citez aussi, ce sont les temps de la fin plus que la fin des temps.
Oui, moi je le formule en termes d'immanence contre imminence. Je pense qu'on est beaucoup moins dans une fin des temps que dans un temps de la fin. C'est-à-dire que ce qui importe, c'est pas de donner une date pour l'apocalypse. Je trouve ça un peu dérisoire de dire que la fin du monde surviendra avant 2030.
Et en même temps, c'est l'hypothèse de Castel à l'ouverture de son essai
aussi,
qui consiste
date,
à dire,
mais sans la donner,
il se passera moins de temps entre la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et aujourd'hui, qu'entre aujourd'hui et
la fin du monde. Oui, bah, il donne une date sans la donner. C'est une façon, je crois, pour lui d'indiquer un horizon historique sans le déterminer. Parce qu'en fait, dire c'est moins de 500 ans, c'est pas déterminer grand-chose. C'est juste
un... Mais ça fait suffisamment peur pour...
Ça fait suffisamment peur pour qu'on se dise qu'il faut faire quelque chose, mais indiquer juste, voilà, c'est dans le temps de l'histoire.
Et c'est un peu plus crédible qu'Yves Cochet, quoi.
Et c'est plus crédible parce que ça nous place dans ce que j'appelle un temps de la fin, c'est-à-dire une apocalypse immanente, plutôt qu'une apocalypse imminente. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous place dans la position des premiers chrétiens, ceux qui recevaient la parole de saint Paul, qui était de dire nous sommes dans un temps de la fin, dans un temps où il faut agir pour que le monde se transforme. Là, je parle de notre situation. Il faut agir pour éviter que le pire se produise. Ce qui ne veut pas dire que le pire se produira demain. C'est pas un fatalisme, c'est pas du prophétisme, mais c'est une façon de considérer que maintenant est le temps de l'action et qu'il n'y a rien de plus important que ça.
C'est là qu'on retrouve la notion peut-être d'utilité, même s'il ne s'agit pas de les réduire à ça, de ces fictions, parce que ces fictions sont d'abord et avant tout des fictions critiques.
Oui. fiction critique, et c'est pour ça que je renacle un peu avec le terme d'utilité. J'estime que ce sont des fictions critiques du présent, que ce sont des fictions politiques, parce qu'elles nous amènent à comprendre des rapports politiques, et elles analysent des rapports politiques. Ça commence chez Margaret Atwood, c'est aussi évidemment le cas de Volodine, avec son utopisme désespéré. En même temps, je dis à la fin du livre que la fiction n'est jamais plus utile au monde que quand elle ne s'en occupe pas.
Néanmoins, s'il y a une forme d'utilité, c'est, là aussi vous insistez à la fin du livre aussi, c'est sur la capacité qu'ont ces fictions de réhabiliter le politique.
Oui. Ce sont des fictions non militantes, en tout cas celles qui m'intéressent. Ce ne sont pas des textes qu'on pourrait appeler engagés, il n'y a pas de cause à défendre, surtout pas. Mais ce sont des fictions qui pensent la politique, et dans ce sens-là, évidemment, elles le réhabilitent. Mais là, ce ne sont pas les seuls, parce que globalement, la fiction d'aujourd'hui est très politique. Elle est d'autant plus qu'il n'y a pas de cause à défendre et qu'il n'y a pas de parti où s'engager. Penser la politique, ça n'engage pas à prendre un parti particulier, parce que ça, c'est très difficile.
Alors aujourd'hui, évidemment, ce sont les questions d'Anthropocène qui marquent ces fictions. Mmh. On peut citer, on a un peu parlé, le roman de Cormac McCarthy, La Route, qui a connu un succès public très très important, plus que ses autres livres.
Beaucoup plus, oui.
C'est un très grand auteur, mais ce livre-là, visiblement, est parvenu à toucher un public plus large, probablement du fait des thèmes qu'il aborde.
Probablement aussi parce que c'est un grand roman. C'est le roman sans doute le plus noir de tous ceux que j'ai étudiés. Au début de La Route, qui est un livre qui a une bonne dizaine d'années maintenant, je crois qu'il a été publié en 2007 aux États-Unis. Le monde est complètement détruit. Il a été détruit il y a 10 ans. Ça, c'est important. Le roman commence 10 ans après la catastrophe. Ce délai, il est important du point de vue de l'intrigue, parce qu'il y a un petit garçon dans le livre. On sait que le livre raconte la fuite vers le sud pour trouver un peu de chaleur dans un monde où il y a une couverture de nuages qui empêche les rayons du soleil d'arriver jusqu'à terre. Le père et le fils descendent vers le sud. Mais ce délai de 10 ans, il est important aussi parce qu'il permet de regarder le monde passé comme un amas de ruines et d'être dans le deuil. Bien que le roman ne se concentre pas sur le deuil, parce que le père, justement, veut éviter le deuil. Il veut que son fils ne soit pas dans le deuil du monde. Lui est dans un deuil qui l'empêchera d'y survivre, finalement. Mais le fils, lui, ne doit pas entretenir le deuil d'un monde qu'il n'a pas connu. Le fils ne doit rien regretter, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce roman. Il ne faut pas regretter ce qui a été perdu. Ça, c'est un aspect très important de ces fictions. La Route n'est pas la seule à dire ça. Il ne faut pas regretter ce qui a été perdu. Il y a autre chose à construire, quelque chose qui ne doit entretenir aucune dette à l'égard de ce qui a été perdu. L'absence de dette, l'absence de regret, c'est fondateur. Ça fait partie de cette table rase dont on parlait tout à l'heure.
Ce qui frappe dans ces fictions contemporaines de la fin du monde, c'est précisément leur rapport au temps, dans l'incertitude qui est ce rapport au temps, parce que effectivement, comme on le disait, on ne sait pas si c'est pour dans 500 ans ou dans 30 ans. Ce qui est très différent, peut-être, d'une autre génération d'écrivains. En vous lisant, je repensais à des conversations, des entretiens que j'ai pu avoir il y a longtemps maintenant avec Martin Amis, le romancier britannique, qui a le sentiment de faire partie d'une génération traumatisée par la bombe atomique. D'ailleurs, il a beaucoup écrit sur le sujet. Ça rejoignait les films de Kubrick ou ce moment des années 60 où un certain nombre d'enfants ou d'adolescents étaient saisis par la peur que la fin du monde puisse survenir à n'importe quel moment et de manière immédiate, totale. Ce qui est très différent de la situation dans laquelle on pense aujourd'hui cette fin du monde.
Oui, Jean-Paul Langevin. C'est vrai qu'on est dans une conjecture... dans une conjoncture historique complètement différente. Dans les années 60, surtout dans la première moitié des années 60, on pouvait penser
la baie des cochons,
raisonnablement que ça allait survenir demain, qu'on n'aurait aucune chance d'être prévenu et que voilà, on serait anéanti.
Et donc les gens
construisaient
des abris anti-atomiques dans leur jardin.
Oui, oui, oui. Bon, c'est l'époque où Günther Anders conçoit ce qu'il appelle le délai. C'est-à-dire qu'on vit désormais non plus dans l'histoire, mais dans un délai. Et Günther Anders a fait beaucoup pour qu'on pense justement cette situation historique très particulière. Et aujourd'hui, après une période d'oubli, pendant des années, on n'a pas lu Günther Anders, mais après une quarantaine d'années d'oubli, c'est un auteur qu'on resollicite beaucoup parce qu'on pense le délai, mais dans une conjoncture où on sait qu'on s'est installé dans une catastrophe progressive, dans un effondrement lent, ce que j'appelle une apocalypse à bas bruit. C'est-à-dire qu'on sait que le monde se dégrade, que les institutions se fragilisent et en même temps deviennent de plus en plus menaçantes. Et on attend qu'un délitement plus profond encore. Donc ces fictions, les plus récentes, viennent de ce sentiment-là aussi.
Vous terminez votre essai, Jean-Paul Angélibert, par cette conclusion.
Oui.
Et la dernière, elle consiste à opposer l'amour à l'apocalypse.
Oui.
Qu'est-ce que vous
Ça vous semble surprenant.
Mais ce livre se termine par une note...
Oui, don quichotesque. En fait, j'oppose surtout le romanesque... au fatalisme, et je termine en disant qu'on a besoin de la puissance des fictions pour lutter contre l'apocalypse, et quand je parle d'amour, je pense à la dernière fiction que j'étudie et qui est Ghost in the Shell, le film d'animation de Mamoru Oshii qui date des années 90, dans lequel c'est une force d'amour qui permet au personnage de survivre et de recomposer un monde dans un contexte apocalyptique. Et je pense plus largement que c'est en cultivant nos attachements, en cultivant des attachements humains et non humains, comme certains penseurs de l'écologie le proposent, qu'on lutte le plus efficacement contre l'apocalypse.
Des fictions de l'apocalypse, on en parle dans la seconde partie de l'émission avec l'écrivain Alban Lefranc qui nous rejoint, mais c'est après un extrait du nouvel album de la saxophoniste Matana Roberts.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
Fabuler la fin du monde, c'est le titre de l'essai de Jean-Paul Angélibert dont nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées. On parle des puissances critiques des fictions d'apocalypse. Et une fiction d'apocalypse, c'est par exemple L'homme qui brûle d'Alban Lefranc, un roman qui a paru il y a quelques semaines aux éditions Rivage. Alban Lefranc est avec nous depuis la Suisse, je crois. Bonjour.
Bonjour.
Alors l'apocalypse, elle est présente dans ce roman L'homme qui brûle, mais il ne s'agit pas vraiment d'une fiction d'apocalypse. On a le sentiment, en vous lisant, Alban Lefranc, que l'apocalypse est davantage, ou plutôt la présence aujourd'hui dans notre monde de l'apocalypse est davantage comme une trace dans ce roman.
Oui, on est dans le temps du juste encore, hein, dont parlait Günther Anders. Günther Anders disait qu'on est passé du pas encore messianique au moment du juste encore. Donc dans le roman que j'ai écrit, il s'agit surtout d'un bégaiement en fait à notre présent. Donc on n'est pas dans la table rase dont vous parliez dans la première partie de l'émission.
Mais on sent quelque chose, on sent que quelque chose s'est passé quand même.
Oui, c'est-à-dire que moi je parlerais d'un bégaiement plutôt à notre présence, c'est-à-dire les signes du pire qui existent, dont on est environné, je les ai poussés à leurs limites. Il y avait vraiment un parti pris d'amplification, d'exagération, de pousser le curseur très loin, dans une forme aussi de burlesque d'ailleurs, parce que il y avait vraiment. C'est aussi un roman que j'ai écrit aussi l'année dernière. J'ai terminé, en tout cas l'année dernière, dans un moment quand même politique précis en France de répression ahurissante, qui aurait imaginé il y a encore 3 ou 4 ans que la France serait condamnée par l'ONU ou par Amnesty International. Donc un moment vraiment très orwellien aussi, où la parole politique est particulièrement disloquée, disqualifiée, discréditée. Et où on pense sans cesse à ces slogans dans 1984, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force. Donc le roman essayait de saisir aussi ce moment de, essayer de suivre un personnage qui est sans cesse confronté à cette parole disloquée, à un monde où règne très très grande violence et qui essaye justement qui essaye de remettre du sens, alors un petit peu maladroitement, de manière un petit peu burlesque ou très décalée aussi. Très absurde, mais qui s'efforce. C'est un personnage qui lâche pas prise, qui s'efforce sans cesse de réinjecter du sens dans le monde qui l'entoure.
Et de refeuilleter les temporalités, parce que c'est un personnage aussi qui s'intéresse à Thomas Münzer. Donc il y a là une présence historique très, très importante dans ce roman.
Oui, il y avait vraiment la volonté de Benjamin, disait, de parler du bond du tigre dans le passé. Mon personnage va chercher chez Münzer une force étrange, une force un peu aberrante. Donc Münzer, c'est un théologien révolutionnaire, je ne sais pas si on peut vraiment parler de révolutionnaire, mais en tout cas un théologien qui a prôné une forme d'insurrection au début du XVIe siècle, c'est une radicalisation de la réforme. Et initialement, mon personnage, Luc Jardy, a un projet, c'est d'écrire sur Münzer. Alors il se dépêtre un petit peu maladroitement dans ce projet qui va prendre l'eau de toutes parts, mais il essaye, dans la parole de Münzer, il a le sentiment qu'il va pouvoir trouver une puissance qui était aussi celle du verbe. Alors il faut peut-être préciser pour les auditeurs que c'est aussi ce personnage de Luc Jardy est très ancré dans une histoire bien précise aussi, hein, qui a été éduqué à mort, on peut dire d'une certaine manière, qui a grandi qui a été éduqué dans un catholicisme très étroit, réduit à une espèce de où le dogme est simplement annoné, quoi, un catholicisme réduit à un pur ritualisme. Et dans le trajet de ce personnage, aller chercher Münzer, aller chercher du côté protestant, c'est aussi essayer de retourner contre son éducation la puissance des textes eux-mêmes. Donc il y a constamment des tentatives, une espèce de foi, de crédit en tout cas, donné à une puissance possible de la parole, précisément contre la dislocation de la parole politique ou de la parole publique dans laquelle il baigne.
Jean-Paul Angélibert. Si, Jean-Paul Angélibert, Alban Lefranc parlait juste avant de la dimension burlesque de son livre. Qu'en est-il plus généralement de la place de l'humour dans ces fictions d'apocalypse? On n'en a pas parlé tout à l'heure.
On n'en a pas parlé. C'est vrai qu'il y en a une. J'en parle un peu à propos de Margaret Atwood. Il y a une dimension un peu grotesque chez ces personnages d'animaux transgéniques avec des gènes humains qui les rendent capables de parler, enfin en tout cas de parler leur langue.
Il y a des éléments d'humour aussi dans d'autres romans. C'est vrai que c'est aussi une arme contre le fatalisme et le désespoir. Il faut aussi changer de ton. Et je trouvais très intéressant dans la discussion qui commence la référence à Münzer, après celle à Benjamin et Anders. On est vraiment dans le temps où on revisite les penseurs à la fois du contemporain, enfin ceux qui permettent de conceptualiser le contemporain comme Benjamin, et puis les penseurs du millénarisme avec Münzer.
Mmh. Alban Lefranc.
Oui, vous évoquez Anders, il y a un autre aspect moi qui m'a beaucoup frappé chez Anders, c'est pour penser notre présent, c'est quand il décrit notre devenir fantomatique aussi.
Oui.
Il a une phrase magnifique, il dit quand le lointain devient proche, c'est le proche qui devient lointain. Et lui, il parle de la radio à l'époque, hein, en 1956, quand il écrit L'obsolescence de l'homme. Donc le monde qui arrive par les ondes, donc le lointain qui devient proche, a produit un effet de dissolution de notre environnement sensible. Et ce qui est sidérant quand on lit L'obsolescence de l'homme, ce texte d'Anders, c'est de voir jusqu'à quel point ça s'est déployé aujourd'hui.
Oui.
Et donc du coup, moi, j'allais chercher l'apocalypse ou de la fin des temps ou la destruction généralisée, pas tellement dans des signes spectaculaires. Il y a assez peu ça dans mon roman, mais plutôt dans déjà une dislocation du langage qui pour moi est un signe éminent de ce pire, et aussi dans cette présence du fantomatique. J'ai vraiment essayé de ressaisir ça, notamment par le porno, qui est une espèce de symptôme absolu de ça, dislocation du corps, le porno comme le règne du non-corps, enfin l'endroit où paradoxalement, ou de manière très évidente, le corps disparaît tout à fait, quoi.
C'est ce qui est le cas de votre personnage.
Absolument.
C'est le cas de votre personnage qui n'a pas de corps.
Absolument, qui n'a pas de corps, qui a été éduqué à mort, comme je disais tout à l'heure, donc qui se conçoit comme une espèce de brique, une espèce de machine à concours, sans voix et sans corps. Et le roman est aussi, de ce point de vue-là, un roman d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il s'agit de conquérir une parole, de conquérir un corps, au milieu de tous ces fantômes, parce que ce garçon est peuplé de fantômes, ceux du porno, mais beaucoup d'autres aussi. Et il s'agit aussi pour lui de retrouver une capacité à s'adresser à autrui, tout simplement.
Ça se retrouve dans la forme aussi de votre roman, qui est disloqué à l'image du monde dont vous parlez.
Oui, absolument. Il y a des éléments de cette dislocation. Bon, j'évoquais le porno, mais un autre, c'est bien sûr l'inflation, les hashtags, enfin, c'est-à-dire le moment où une pensée politique ou publique va s'articuler par des simples mots d'ordre, des hashtags. Donc on n'est même plus dans la guerre, c'est la paix, qui forme une phrase finalement, mais dans hashtag tous unis contre le terrorisme, qui veut pas dire grand-chose. Et j'essaye de saisir aussi ce moment un petit peu débilitant, c'est-à-dire ce qui avait peut-être pas encore pu anticiper Orwell, ce qui a mieux saisi par exemple un film comme Brasil de Terry Gilliam, c'est le moment où cette extrême violence, on a une jonction de à la fois d'une extrême violence, dans le maintien de l'ordre, et une parole politique qui s'adresse aux citoyens comme à des enfants de d'un an et demi, et encore. Moi, je cite toujours cet exemple un peu idiot de la RATP qui avait un moment comme slogan « Dans le bus, je valide bus ». Et je m'interroge beaucoup sur le statut de cette parole, parce que aucun parent ne parle à ses enfants comme ça. Donc, je serais très curieux, ce serait presque une situation cocasse, d'imaginer la réunion qui a abouti à un slogan aussi débile, je trouve pas d'autres mots. Et donc, le roman essaye de saisir, d'où aussi des effets burlesques, cette dislocation aussi du langage, qui nous affecte de part en part, je pense, beaucoup plus qu'on ne veut bien le croire.
Qu'en est-il, Jean-Paul Angélibert, de ces formes esthétiques, au fond, qui tentent de capter cette dislocation? On voit bien chez Volodine la forme que ça peut prendre, le travail sur le lexique, mais vous vous intéressez aussi à des formes plus commerciales de littérature ou de cinéma.
Oui, mais en écoutant Alban Lefranc, je pensais aussi à Chevillard, qui travaille aussi la dislocation de la narration et l'appauvrissement du langage de notre époque. Dans un livre comme Sans Laurent Houtan, on voit exactement la conjonction de la spectralisation du monde, là, à travers un élément fictionnel qui est très très ténu, qui est la disparition des derniers orang-outans du monde, et puis la perte du langage, puisque les êtres humains qu'il montre désespérés par l'absence des espèces sauvages, là, de l'orang-outan, n'arrivent plus à parler, n'arrivent plus à agir, c'est tout un... Ce qui est intéressant dans le roman contemporain, je pense, c'est qu'on a à la fois un travail sur sur une requalification du langage, la nécessité d'une requalification de forme narrative, du langage même au niveau syntaxique, et puis une dimension critique et satirique qui peut amener à développer des situations burlesques, comme disait Alban Lefranc, oui.
Dimension critique évidente, on vous a entendu, Alban Lefranc, et on retrouve cette manière de faire dans votre roman. Mais fiction comme outil de connaissance, dont on parlait tout à l'heure aussi pour vous?
Oui, absolument, dans la mesure où ce sont des hypothèses. En quoi, comme je disais, j'ai poussé le curseur assez, j'essaie de pousser le curseur assez loin. C'est un roman où, de la manière où les attentats sont devenus une espèce de phénomène météo. Hein. Il neige, il pleut, il fait attentat. C'est une relative normalisation de ça. C'est aussi un roman qui essaye qui se coltine un peu la question du nihilisme, qui est quand même le grand démon qu'on doit affronter pour au moins 200 ans, disait Nietzsche. Mais à savoir que mon personnage, il ne cesse pas de retenter de donner du sens, hein, maladroitement, de manière un peu burlesque parfois, mais est surtout frappé par moments d'une relative indifférence aussi, et d'une pulsion de mort, d'une pulsion morbide assez grande. J'essaie d'affronter ça, de dire ça aussi, parce que dans tout ce qu'on raconte par rapport à cette imminence possible d'une fin de l'espèce, du désastre de tous les désastres, qui est quand même très frappant, c'est la relative indifférence avec laquelle on vit ça. C'est peut-être le plus sidérant.
Eh bien, merci Alban Lefranc, c'est pas la fin du monde mais la fin de l'émission. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'homme qui brûle, un roman qui paraît aux éditions Rivage. Merci Jean-Paul Angélibert.
Merci à vous.
Vous vous faites paraître à la découverte Fabulé, la fin du monde, la puissance critique des fictions d'apocalypse. On trouve les références de ces deux ouvrages sur la page de la suite dans les idées, une page sur laquelle vous pouvez réécouter cette émission et également vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier, à la technique Pierre Monteil, à la réalisation Marie Placé. C'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.